Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Baba Versus. Et c'est un plaisir et un honneur pour moi de revenir à mes premiers amours, le Muay Thai. Et quoi de mieux que d'avoir une légende du sport, monsieur Jean-Charles Skarbowski. Salut Jean-Charles.
Bah écoute, merci beaucoup de ton invitation.
Ouais, merci à toi.
C'est un honneur d'être invité.
Bah tout l'honneur est pour moi parce que j'ai 42 ans. Donc t'es un de mes héros de jeunesse.
Tu fais plus jeune.
Merci beaucoup. Mais j'ai grandi en te regardant. J'ai fait de la boxe thaï parce que je te regardais, toi et les autres qui ont écrit la légende de ce sport. Et je crois que c'est important aussi de rappeler à quel point on a été bons.
Merci beaucoup. En plus, tu t'entraînais quoi, pas très loin de chez moi. Enfin, moi, j'habite dans le 18e. Toi, tu t'entraînais chez Bobby, chez Rachid.
Exactement, à Saint-Ouen.
C'est deux personnes que j'apprécie beaucoup, ouais, que je vais voir régulièrement.
Exactement. Bon, on passe le bonjour et puis à toute la famille du Muay Thai français.
Voilà. Et
puis
je pense Moussa Dembélé.
Voilà. Moussa Dembélé, exactement.
Pendant
très longtemps, exactement, qui était champion de France professionnel. Écoute, ça commence toujours de la même manière, Baba Versus. Moi, j'aime bien arriver aux origines du sport, surtout votre génération qui est une des premières générations après les pionniers. Évidemment, on va parler, il y a Roger Pachi, etc., tous ceux, le Yamatsuki, on peut citer. Vous êtes les premiers élèves, toi, t'es un élève d'André Zetoun. Comment tu arrives à la boxe thaï? C'est quoi ta première rencontre avec la boxe thaï ou même les arts martiaux en règle générale?
C'est vrai qu'on j'ai eu de la chance parce que à l'époque, il n'y avait pas énormément de clubs, quoi. J'ai réussi à entendre parler d'un club qui était bien, André Zetoun. Effectivement, il y a eu une génération avant,
ouais.
Qui avait cartonné. Hein. Et ils sont tous devenus profs, qui ont ouvert les salles.
Ouais.
Et c'est quoi ta question, excuse-moi?
Bah, c'est de savoir comment, en fait, qu'est-ce qui t'a fait débuter le Muay Thai, ou enfin les sports de combat en général?
J'étais en troisième à l'école, et il y a un ami, Jérôme Le Bourgeois.
Ouais.
Je cite son nom parce que il donne un petit coup de main au club, tu vois, parce que je ne l'ai pas oublié, là. C'est normal, il m'a montré la voie, il m'a présenté entre les tours, il m'a dit qu'il y a un sport qui vient de sortir. Mais en fait, c'était sorti depuis 10 ans, mais il n'y avait pas Internet à l'époque, on ne pouvait pas tout savoir. Il dit que c'est un sport de la boxe, là, et c'est un sport de malade. Coup de tibia, c'est le sport le plus efficace debout.
Ouais.
Voilà, donc ça avait la réputation d'être le sport de combat le plus efficace. Et moi, j'aime bien faire des sports de combat. Bon, j'ai fait un peu de karaté, un peu de kung-fu, un peu d'aïkido, enfin, des arts martiaux, quoi.
Ouais.
Et je trouve que c'est important de savoir se défendre et puis contre ses émotions, de se pousser à bout lors de l'entraînement. Et donc, quitte à faire un art martial, autant prendre le meilleur. Tu vas me dire que c'est pas que ça. Après, maintenant, aujourd'hui, tu vas me dire il y a la lutte, mais à l'époque, il y avait aussi du judo, mais oui. On s'y intéressait pas trop, quoi.
Non. On a tous fait du judo, parce qu'il y avait du judo dans toutes les écoles.
Ouais, effectivement, voilà. À l'école, j'ai fait un peu de judo, quoi. Mais bon, enfin, le prof, il nous disait, il nous laissait un petit peu livrer à nous-mêmes, faire un peu n'importe quoi. On faisait des chutes ou des. C'est important parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils ne savent pas chuter.
Oui, c'est vrai.
Ils tombent comme n'importe comment, ils se pètent un bras, quoi.
On l'a vu même à l'UFC, hein. Mais bon, après, ouais, ça, c'est des... Alexandre Potoja qui s'est fracturé, enfin qui se fait mal à l'épaule ou au coude, je sais plus, en tombant comme ça sur une chute, il tombe sur le bras tendu.
Il s'est tombé quand même.
Ouais, normalement il s'est tombé, mais ouais. Tu vois, ça peut arriver même au plus haut niveau. Mais c'est vrai que bah, si tu me demandes, effectivement, pour moi, le Muay Thai, ça reste le sport le plus efficace. Chacun va avoir son avis, c'est pas un débat, simplement.
Mais en fait, sans même parler de la discipline en elle-même, parce que. Au moment du combat, il y a toutes les règles, enfin, il y a pas beaucoup de règles, quoi. Ne pas taper dans les parties, ne pas taper les deux jambes pour le soulever. À part ça, tu peux faire tout ce que tu veux, quoi.
Ouais.
Bon, pas d'étranglement, forcément. Donc maintenant, tu as le droit de faire toutes ces techniques-là. Après, libre à toi de les faire de la manière que tu veux, quoi. Un coup de pied de kick ou un coup de pied de boxe thaï, on voit pas vraiment la différence, quoi. Ouais. Ou taekwondo, coup de pied retourné. Regarde, John Jones, coup de pied retourné, il a gagné la dernière fois.
Ouais.
Ce qui est bien avec ce sport, c'est qu'il y a des combats régulièrement. Donc on peut se tester sur le ring directement. Et les combats, c'est dans les règles du Muay Thai, mais tu peux faire la discipline que tu veux, parce que ça rentre toujours un peu dans les techniques du Muay Thai. Sauf évidemment sous les soulevés de terre, où tu le soulèves et tu le jettes par-dessus les corps. Mais n'importe quel pratiquant d'art martial peut faire, pour se tester, avec le minimum de règles possible, un combat de boxe thaï, quoi.
Ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison. Puis surtout la régularité de pouvoir combattre beaucoup.
Et puis aussi un truc qui est une différence, c'était la dureté de l'entraînement. Parce que tu vois, par exemple, on va dire les disciplines comme le Krav Maga, par exemple, où il y a des entraînements qui sont assez. C'est destiné un peu à monsieur tout le monde. Hein,
bien sûr,
c'est une différence. 40 ans, 50 ans qui sortent du boulot et qui n'ont pas envie de se prendre des coups dans la gueule non plus, parce que c'est quand même pas le but. C'est là assez facile, mais moi qui fais de la boxe thaï, si on montre 2-3 techniques de Krav, je serais beaucoup plus efficace, parce que le corps il est dur, parce que l'entraînement il est dur, parce que...
Ouais, c'est clair.
Et puis, les techniques de Krav qui sont tapées dans les parties.
Ouais.
Ça, bon, ça, j'aurais pu le deviner par moi-même, quoi.
Bah, je pense que si tu veux te
poser... Mais si je ne travaille jamais, j'y penserai pas le jour venu, quoi.
Exactement.
Toi, tu y penserais, non?
Bah non, moi, je pense pas. C'est juste...
Parce qu'en plus, entre hommes, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de code d'honneur, tu vois. Ça ne met pas des coups dans les parties, quoi. Non,
en tout cas, ça a existé. Je vais dire que ça a existé. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. En toute franchise. Bah, ça évolue, comme tout. Hein. Ça évolue. Il y a moins de respect de certaines règles, justement, qui sont non-dites, certains non-dits. Si tu prends je vais te dire des bêtises, des embrouilles qui dégénèrent en bagarre, avant, c'était presque codifié.
Oui.
On s'embrouille, toi et moi,
on
tape pas dans les parties, puis on va chercher nos potes, et puis on fait un truc dans un terrain vague. On sait très bien aujourd'hui que c'est plus du tout comme ça, que ça a beaucoup évolué dans le mauvais sens.
Maintenant
bah, il n'y a plus de bagarres. On utilise des armes, des choses comme ça.
Les gens sont moins violents.
Ah non, il n'y a plus comme ça. Bah, c'est soit violence extrême, soit pas. Ouais. Mais il n'y a pas de...
Ça, c'est déjà ça, quoi.
Il n'y a pas de juste milieu. Tu parlais d'entraînement dur. André Zetoun, il était connu pour ça, pour avoir un club dur d'entraînement...
Je ne sais pas comment ça se passait dans les autres clubs, mais en tout cas, chaque entraînement, c'était un combat, quoi.
Ouais. Ouais, André, il était sans concession. Comment tu le décrirais, ouais, André, justement, et ta rencontre avec lui
C'est un coup de foudre, hein, je suis allé le voir, il m'a kiffé, quoi. Je prends par exemple André, quelqu'un vient dans sa salle, bon, à l'époque, il n'y avait pas énormément de monde, forcément, moins qu'aujourd'hui, mais il apprenait tout de suite le prénom de l'élève.
Ouais.
Lui donner de l'importance. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il m'a donné de l'importance, qu'il m'a regardé, parce que j'ai fait chier du karaté, de l'aïkido, du kung-fu. Mais pour que le prof vienne me parler, c'était pas tout le temps, c'est une seconde de temps en temps, tu vois, il avait d'autres élèves, quoi.
Ouais.
Et moi, je suis arrivé, il m'a regardé dans les yeux, il m'a parlé, il m'a touché. Les autres profs de karaté ou kung-fu m'avaient pas mis de coups. Ils m'ont fait des trucs, ouais. Mais ils m'ont pas mis de coups. Mais quand quelqu'un te met un coup, il y a un lien qui se crée.
Ouais, forcément.
Parce qu'en plus, c'est pour mon bien, c'est pour montrer un balayage, quoi.
Et derrière, donc avec lui, tu t'enchaînes les combats, ouais. Et les KO, championnat de France, championnat d'Europe.
Ouais, que des victoires jusqu'au 13e combat. 13e, 14e combat, je perds. 15e, je fais match nul. Alors que j'avais que des victoires avant le 13e, ouais. Et après j'ai refait que des victoires pendant 35 combats, que des KO presque.
Que des victoires, quasiment que des KO. Là, là on te découvre comme étant une machine à KO. Moi, j'ai mon premier souvenir, j'ai envie de dire. Ça va être le combat que tu fais contre Kamel Mayouf.
Ouais.
C'est celui qui me marque le plus, moi.
KMF, il était très fort.
Ouais, c'est un combattant très fort. Et puis toi, t'arrives. Et puis la vérité, c'est que quand on te voit rentrer avec la coupe bien faite et tout, on se dit pas que tu peux être capable d'une telle violence, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire?
Bah justement, il faudrait que tu expliques comment tu peux savoir s'il y a de la violence dans la personne en jugeant sa coupe.
Parce qu'on juge les gens. Là, c'est ça le problème, on est comme ça, nous.
Voilà,
on juge à l'apparence, en fait.
C'est la coupe. Alors, pourquoi je me souviens plus trop. Ouais, j'ai la coupe.
La coupe un peu.
Au milieu. Ramon Descartes l'avait. Kensack aussi.
C'est vrai.
Kensack Soponchit. En fait, c'est.
Ton grand champion.
Kensack, j'avais refusé.
Ah, tu t'es inspiré de Kensack Soponchit.
Et Ramon Descartes aussi. Parce qu'il avait
Ramon, il avait cette coupe-là un peu fouillée quand il met K.O. Coban, il a cette coupe-là.
Mais c'est Kensack, quoi.
Ouais, c'est intéressant. Et puis donc, ouais, moi, ce combat-là, il me marque. Tu le mets KO avec une énorme droite au corps, après avoir beaucoup dominé, avoir beaucoup avancé sur lui.
Ça, c'est une technique que André Zetoun m'avait dit dans le vestiaire. C'est rare que le jour du combat, on invente un truc, on dit « tu vas faire ça, quoi ouais. ». Et il a dit ça, quoi. Il a fait « tu vas traverser sa jambe, tu regardes sa tête, t'as dans son ventre ». Et je l'ai fait.
Ouais.
Et en fait, c'est ça, dans un combat, ce qu'il faut, c'est réussir à rester calme. Parce que je parle encore avec un ami hier, qui me dit qu'il était très fort à l'entraînement, il tournait avec Samir Petit Prince, il me dit qu'il pouvait le mettre en difficulté. Mais en combat, les gens qui perdent leurs moyens.
Ouais, c'est vrai.
Et là, il m'avait dit un truc dans le vestiaire que j'ai refait par la suite.
Ouais, toi, c'était l'inverse. En fait, mentalement, c'était différent. Enfin, en tout cas, quand on te croise dans la rue, au quotidien, même à l'époque, encore une fois, cette perception-là qu'on va avoir.
C'est toi que tu sais, les
différentes.
Peut-être pas la première fois, mais la troisième, quatrième fois, j'ai fait un combat à Gennevilliers et quand je me baladais, tout le monde me regardait, quoi.
Ok. Ouais, tu vois, c'est les perceptions et puis c'est une tare hein, que l'humain, je trouve. T'avais déjà été en Thaïlande faire pas mal de combats. Ensuite, tu prends la décision d'aller en Thaïlande, t'y installer durablement. C'est
ouais,
quoi qui
à 25 ans.
Qu'est-ce qui te fait décider d'aller faire ça alors que en France, t'as quelque chose, t'as des études notamment d'ostéopathe.
Complètement, oui, bien sûr. Ouais. Bah alors, c'est-à-dire que déjà les études que je faisais, c'est très intéressant. C'était ostéopathe, mais je sentais que c'était pas, ça me convenait pas complètement non plus, parce que quand tu fais un métier comme ça, tu vois que des gens malades
oui.
Et des gens qui souffrent. Et c'est même pas toi qui les a fait souffrir. Donc, Bah, en fait, faut vraiment aimer ça, quoi. Tout le... Et moi, au bout d'un moment, j'ai envie de... Tu sais, quand tu fais des études comme ça, tous tes potes, ils viennent te voir, ils disent, ouais, tiens, bah, j'ai mal là, Et t'es venu passer une soirée avec eux, quoi. Et au bout d'un moment, je me dis, tiens, j'en ai marre qu'ils me disent ça, quoi. Et je me dis, si je dis un truc comme ça, c'est que c'est pas un métier pour moi, quoi. Vraiment, tu dis pas ça, quoi.
Ouais, bah, c'est clair.
Je dis, bah, j'en ai marre. Et voilà, donc je me suis rendu compte, bah, là, bon, quand même en quatrième année, on a quand même fait 3 ans et demi, donc ouais. Presque 4 ans. Et il me restait 1 an à faire pour avoir le diplôme. Mais entre-temps, j'ai boxé Robert. Et Robert, il m'a dit, viens en Thaïlande et je vais t'aider, tu vois. Il me fait, je verrai sur toi.
Okay.
Et quand il m'a dit ça, c'était un déclic parce que moi, j'étais parti en Thaïlande entre 18 et 25-26 ans. J'étais parti peut-être 5-6 fois, quoi.
Ouais.
Et j'avais jamais réussi à parler avec un champion, quoi. Parce que les champions, ils sont vraiment à part.
Ouais.
Ils sont à part, ils sont avec leur coach, avec leur pote, avec leur famille. Toi, t'es un touriste, t'arrives avec ton sac, tu sais même pas comment faut s'adresser à lui.
Ouais.
Et au final, le contact ne se fait pas, quoi. Et là, un champion de cette trempe, parce que c'est une légende en plus en Thaïlande, élu boxeur de l'année au Raja Damlon, 95, je sais plus. Et une légende comme ça qui me parle et qui me dit, je vais m'occuper de toi. Je fais, alors, ouais. Je lui ai fait, c'est tapis rouge, quoi. Et effectivement, je suis allé au Jockey Gym, il m'a présenté à tout le monde, à tous les profs, à tous les élèves, tous les profs. On m'a super bien accueilli, quoi, parce qu'il m'a invité. Et au final, j'ai compris qu'en fait, pour aller dans un club en Thaïlande, il faut être invité. C'est-à-dire, si tu vas tout seul avec ton sac, il faut faire tes preuves. Et pour faire ses preuves, ça prend pas 2 semaines ou un mois. Ça prend 4 ans.
Ouais.
Ça prend 3-4 ans.
Mais là, toi, tes preuves, elles étaient faites, parce que tu parles d'une légende du Muay Thai, c'est toi qui le dis, hein, et de toute façon, tout le monde le sait, les suiveurs, Robert, hein, qu'on appelle, ouais. Alors pour ceux qui vont faire des recherches sur YouTube, c'est Robert Kenorasi.
Ouais, c'est écrit Robert, mais il le pense à l'anglaise Robert.
Exactement, mais c'est Robert, pour que vous puissiez faire vos recherches. Et en fait, c'est un exceptionnel combattant que tu as combattu à Las Vegas.
Exact, ouais.
Et que tu as mis KO.
Premier round aussi. Hein.
Énorme surprise en Thaïlande, au point où apparemment, quand il est rentré, ça s'est très mal passé pour lui.
Ah, je sais pas quoi.
Apparemment, les parieurs.
Je pense pas quand même. Je pense pas qu'il y ait des paris.
C'est la rumeur.
Je pense pas qu'il y ait des paris sur le combat à Las Vegas, ou peut-être.
Ouais. En tout cas, ça fait partie de la légende de cette histoire-là, de ton combat-là. Mais déjà, toi, première chose, tu vas combattre à Vegas.
Parce que c'est des mecs qui ont quand même 200, 300 combats, ouais. Des défaites, ils en ont.
Ils connaissent tout, évidemment.
Boxe, on gagne, on perd.
Toi, t'es un jeune parisien déjà qui va combattre à Las Vegas. L'entre des combats américains avec d'autres Français, puisque c'était un gros gars là.
Avec une raie au milieu.
Ouais, toujours une raie au milieu d'ailleurs.
Je vais même te dire deux.
Et comment tu. Est-ce que c'est quelque chose qui t'avait mis la pression, entre guillemets, d'aller à la fois combattre à Vegas et en plus combattre contre une légende? Et tu savais, toi, que c'était une légende.
J'étais un peu sur notre planète, quoi. Je calculais pas ce qui se passait, quoi. Je sais que c'est. À ce moment-là, quand j'ai boxé Robert, pour moi, c'était le taille le plus fort. À qui on a donné accès à boxer un phalangue. Parce que c'est-à-dire que Robert, il avait arrêté les Thaïs qui venaient faire bonne impression en France ou en Europe, ils avaient arrêté leur carrière depuis déjà 3-4 ans.
Oui.
Tu vois, Robert, il avait arrêté depuis 1 an.
Oui. Donc, bon, toujours, ça reste quand même toujours là.
Ouais. Oui. Il est plus âgé que moi. Moi, j'avais 2-3 ans plus que moi. Et ça me fait halluciner, quoi.
Ouais, bah c'est clair.
Et je lui ai dit avant le combat, je lui ai dit, tu sais que j'ai des posters de toi dans ma chambre.
Oh purée.
Et quand je lui dis, moi je lui dis ça pour. Parce que je l'aime bien, quoi.
Oui.
Et quand je lui dis ça, il m'a regardé, après il est reparti et il était un peu perdu dans ça. Tu sais, j'ai vu, et j'ai dit, putain, je l'ai touché, là, ça sans faire exprès, quoi. Moi je voulais pas ça pour l'endormir, mais ouais. C'est effectivement le fait que ça l'a un peu endormi, quoi.
Ok,
t'es
ouais.
Et son adversaire, il dit, hey, je te kiffe trop.
T'es ouais, c'est bizarre.
T'es là, t'es gentil. Et après, le mec, bah, il t'envoie une série. Je fais, attends, tu m'as dit que tu m'aimais bien.
Et quelle série? Tu mets contre les corps, tu envoies une série de 7 ouais, coups de poing.
En fait, ma technique, c'est ça. C'est direct du gauche, direct du gauche. C'est ce qu'il atteigne les cordes.
Ouais.
Et quand il va atteindre les cordes, je mets un direct du gauche, il va faire le rebond. Et quand il revient, je me lui percute.
Ouais.
Ça, c'est un truc que j'ai fait pas mal de fois.
Et qui touche très bien, et qui lui éteint la lumière. Et puis, ça te propulse parce que du coup, ça te permet, pour accrocher les wagons, d'être introduit par lui pour arriver au Jockey Gym. Le Jockey Gym, pour ceux qui connaissent pas bien, en Thaïlande, c'est un des camps les plus légendaires
ouais,
qu'on va avoir à Bangkok.
Il y a Sencha, il vient de ce camp. Il y a Somla Kam Singh, hein, qui est champion olympique d'anglaise et champion de Muay Thai international, enfin, un tueur, quoi.
Ouais.
Sencha, tout le monde connaît, le Sila,
ouais.
Chung Pei Toi, et puis Sila Pattaï.
Sila Pattaï, c'est que des légendes, en fait.
Ouais.
C'est que des légendes, et puis donc c'est un énorme camp de boxe en Thaïlande avec...
Kok Lai,
exactement.
Qui a mis KO des...
Voilà, qui a mis...
Il y a
une vingtaine d'années, qui a mis KO un poids lourd, alors qu'il pesait 75
kilos. Oui, il avait boxé contre le Polonais, là.
Contre Ignashov.
Et moi, le même jour, j'ai boxé en Nouvelle-Zélande, et on s'était dit, on s'appelle après le combat pour savoir si on a gagné. Et moi, je me dis, il va perdre contre Inachov parce que c'est pas le même poids. Il y a 40 kilos, Inachov, il l'avait en poupe. Le fait est qu'Inachov n'a pas pris le combat au sérieux et, ouais. et a perdu au point. Parce que c'est vrai, quand on te dit, ouais, tu vas boxer un mec qui fait 30 kilos de moins, t'as pas trop envie d'aller t'entraîner.
Bah, tu dis, ça va aller, quoi.
Bah, c'est comme Usyk, tu vas boxer un champion de kick. Bon, tu t'entraînes pas, quoi.
Ouais, toi, tu penses que toi, il s'est pas entraîné, Usyk, là, pour Rico Verhoeven?
Bah oui.
Ouais.
Et Tyson, il s'est pas entraîné pour Jake Paul.
Oui.
Bah, ça... Déjà qu'il s'entraînait difficilement pour ses propres combats de championnat du monde, il va pas s'entraîner pour Jake Paul.
C'est... Ouais. Ouais, c'est
et
vrai
effectivement, que ça fait un bon combat. Effectivement, il était fatigué, t'es pas entraîné. Ouais. Tu fais 3 minutes, t'es mort, quoi.
Ouais, bah t'as pas
60 ans, quoi.
Ouais, bah surtout, ce que j'allais dire, à 60 ans, c'est compliqué. Tyson, quiconque, combattre un gars qui, en plus, lui, a tous les moyens, j'ai envie de te dire, pour pouvoir performer et qui est très jeune, parce qu'il est très jeune, hein, Jake Paul, ça fera toujours une différence. Mais effectivement, donc toi, en Thaïlande, là, tu commences à faire ton nom. Et tu commences à beaucoup boxer. Et là, cette fois-ci, c'est des combats importants. Là, c'est pas juste des combats en province et tout.
Bon, j'ai boxé Robert, après j'ai boxé une deuxième fois à l'université,
ouais, exactement.
J'ai perdu au point, mais j'ai quand même boxé une légende. Et après, l'année d'après, j'ai rebattu une autre légende, Orono. Même légende que Orono.
Une légende,
tout le monde. Voilà. Il a 400 combats et il s'est mangé qu'un seul KO dans sa carrière.
Ouais.
Et qui lui a infligé selon toi?
Orono, c'était...
Non. Je parle pas ouverture, hein, je parle KO.
Chaos. Ouais. Ah, je me souviens plus, c'est bizarre.
C'est moi.
Ah bah c'est toi, oui, je suis bête. Je suis pardon.
Attends, si je te lance, je t'arrête de parler de ça. Quoi.
Pardon, c'est vrai. Non, c'est jamais. Farid Villaume l'a battu, notamment. Ouais, toi, tu le mets KO. Non, toi, tu le mets KO, c'est vrai. Toi, tu le mets KO et lui, il avait battu Ramon Dekker.
La vérité, c'est que le mec, c'est vraiment un tueur, quoi. Tu sais, je l'ai pas mis KO, il se fait arrêter par l'arbitre.
Oui.
Parce qu'il s'est fait compter une fois, il était en sang. Mais malgré qu'il soit en sang et qu'il tombe et qu'il se relève, il avance vers moi avec son regard, la détermination.
C'est un tueur, lui.
Moi, j'en mets plein la tête et il continue d'avancer. Et moi, je commence à douter. Je suis putain, j'ai le mec KO, il est en sang. Et il me regarde comme s'il me dévissait la tête. Et à un moment donné, paf, je me posais une question, il me met un coup de coude dans la paupière. Et je suis putain, il est en train de revenir. et 5 secondes après, l'arbitre, il a arrêté, quoi.
Ouais, c'est vraiment. Lui, c'était vraiment un combattant qui faisait peur.
Ouais,
qui faisait
peur. J'ai boxé 3 fois, quoi.
Ouais, il y en a pas mal que t'as boxé à plusieurs reprises. Hein, parce qu'après, t'as fait quand même une carrière. Très riche, assez incroyable. Il y a des mecs en Thaïlande, t'as bossé 4 fois, Kunsuk notamment.
Kunsuk 5 fois.
5 fois même.
Mais 5 fois en 7-8 mois, tu vois.
Ouais.
C'est-à-dire que pendant 8-9 mois, j'ai prononcé son nom 40, 50 fois par jour.
T'as boxé
pendant un an, quoi. Ce qui fait que j'ai l'impression que c'est mon frère. Et à un moment donné, quelques années auparavant, il a été malade, il a marqué sur les réseaux qu'il avait besoin de thunes.
Oui, c'est vrai.
Je suis au Raja quand j'avais organisé. Je suis allé voir tous les spectateurs, je suis un petit billet pour Kunsuk. Cet argent, je l'ai filé à quelqu'un. Il m'a dit, je vais le ramener. Et figure-toi qu'il ne l'a pas ramené.
Il ne l'a pas ramené,
il pas ramené. Ouais.
Malheureusement, ouais. C'est la nature humaine des fois.
Je rappelle Kunsuk un an après, je fais, c'est bon, t'as eu les sous. Il me fait, ah non, je peux. Je rappelle le mec, je fais, bah alors t'as donné les sous. Il me fait, ouais, non, mais je t'avais dit parce qu'en fait, le mec. Je fais, ah putain, t'es commencé à m'embrouiller.
Ouais.
Attends.
Ouais, ça c'est. Ça,
moi, je t'en.
Et c'était une belle, une superbe initiative en plus. Donc c'est, mais t'as beaucoup cette histoire-là avec les anciens adversaires. En fait, tu les boxes tellement que tu deviens pote avec eux.
À fond, ouais.
C'est quelque chose de normal en boxe live parce qu'on se rend pas compte. En MMA aujourd'hui, tu vois comment c'est. L'ambiance, c'est les rivalités, les trucs, et puis on reste dedans et on s'embrouille. En fait, en Thaïlande et en Muay Thai en règle générale, c'est le sport, le combat. Mais rapidement, on peut nouer des liens. C'est ce que ta carrière montre en fin de compte.
Complètement, ouais. Bah, une fois, tu sais, après le combat, on a tellement tout donné. Je pense qu'on a les bras, on a plus d'animosité du tout, quoi.
Ouais.
Alors qu'au ping-pong, parce que j'ai fait un peu de ping-pong avant, quoi.
Ouais.
Quand je perdais, j'étais super énervé. Le mec, j'en voulais gravement.
Ah ouais.
J'en voulais grave, ouais. J'étais dégoûté, quoi. Alors qu'en boxe, t'es pas vraiment dégoûté, parce que déjà, t'es content que ça s'arrête.
Ouais.
Puis au moins, c'est fini. Si tu perds, c'est que tu te prenais des coups, donc quand ça s'arrête, t'es content.
Ouais.
Après, victoire ou bien, au moins, c'est arrêté, quoi, tu vois. alors qu'au ping-pong, je me rappelle encore. Et ouais, récemment, j'ai joué au ping-pong avec Yuan Lidon, là. Il m'a battu, j'ai essayé de rester calme, tu vois. Et après, j'ai joué avec un pote à lui, qui m'a battu aussi. Et je vais arrêter de jouer, parce que je sais pas.
Yuan Lidon, grand champion de français aussi. Ouais, c'est moi. Bah, alors, moi, je sais pas du tout jouer au ping-pong, Jean-Charles. Moi, les sports de table, ping-pong, baby-foot, je suis zéro.
Oui,
même moins 10.
C'est le truc de barre, ça.
C'est, ouais, je sais pas, je suis pas très bon à ça. La boxe était un peu mieux.
Le flipper.
Je t'ai dit.
Expliquer ce que c'est le flipper pour les jeunes, peut-être.
Ah, t'as raison, ouais. Je sais pas si les jeunes sont vraiment au fait. Si, sur application, peut-être. mobile. Oui, mais... pas le vrai flipper. Surtout avec la pression du bar et tout ce qui
le mec qui tapait dessus.
Bah, ouais, bah, voilà, avec les records à bas.
Ils insultaient le flipper, je pense.
Ouais, bien sûr que
ils
oui.
Ils insultaient.
Une autre époque.
Tu te rappelles de ça ?
Bien sûr que oui.
Grand coup d'ange, bam.
On a grandi avec.
Quand il, quand il cliquait, c'est pas cliquer, c'était... C'est quoi le mot ? On disait claque et ça
oui,
s'arrêtait.
Oui, je sais plus.
Quand tu te secouais trop, là, bah, tu perdais ta balle, quoi, le jeu s'arrêtait. Quoi.
C'était terminé.
Non, la frustration.
Mais c'est vrai, que, c'est vrai que quand tu combats avec un mec et que du coup vous vous frappez, ça crée un autre type de respect, en fin de compte. Est-ce que tu veux, par rapport au ping-pong ou... Ouais,
bah écoute, en tout cas, on a fait un spectacle, tu vois, parce que tu sais, quand tu vas au, c'est du théâtre vivant, quoi. On a fait un spectacle devant tout le monde, on était très proches à ce moment-là, on était sur le lumière était sur nous, qu'on a vécu un truc intense ensemble, qu'on n'oubliera pas. Effectivement, ouais, plus le mec était fort, bah, plus, plus je kiffe.
Ouais.
Ceux qui m'ont battu, je les apprécie beaucoup, parce qu'ils m'ont, ils m'ont aidé.
Oui.
Parce que quand quelqu'un te monte en erreur, bah, il t'aide, quoi. Et généralement, je les appelle tous... je préfère appeler les gens qui m'ont battu le jour de l'an, parce que ça va plus vite.
Oui.
Ouais, parce qu'ils sont quand même 5-6, tu vois, enfin, que, donc j'ai le numéro, quoi. Parce que sinon, après, ça me fait...
Ouais, bah, ça fait beaucoup.
Rappel, et puis je passe ma soirée.
Ouais, c'est clair. En tout cas, tu fais une grosse carrière, que ce soit en Thaïlande, à l'international. Tu combats un petit peu partout contre, contre les plus grandes stars.
Et pas oublier que j'ai boxé deux Français, que je ne cite pas assez, hein, Samir Petit-Prince et Farid Kider.
Exactement.
Contre qui j'ai perdu, c'est vraiment des tueurs, quoi.
De deux disciplines différentes, Farid Kider, c'était la Sabat, boxe française.
Ouais, mais c'est un combat en boxe à ce jour-là.
Ouais, je me rappelle, et c'était un combat en boxe taille, c'était la nuit des super fights, si je dis pas de bêtises, de Ali Wagheni.
Ouais,
et Samir Mohamed, qui vient du kickboxing.
Donc, je te rappelle qu'Ali Wagheni, il prenait une voiture de location et il mettait devant la salle, genre une Bentley ou un 4x4.
Exact, à Villebon, là-bas, dans le 91. Ouais, c'est des combats. Je me rappelle qu'à l'époque.
C'était des voitures de location.
Non, il est loué, ouais. À l'époque, t'étais pas content d'avoir fait du kickboxing. Ça t'a passé ça depuis ?
En fait, contre Petit Prince, c'était du kickboxing.
Ouais, exact. Ouais.
Et effectivement, c'est plus progressif. Moment où j'ai attrapé la jambe.
Bah, ils étaient stricts en France. Hein. Il n'y avait pas les coups de genoux. C'était pas du règle K1 comme
en
on
fait,
voit aujourd'hui.
Samy était juste un peu disputé avec le Fédé de boxe. Il organisait avec le kickboxing.
Il organisait en kickboxing.
J'ai boxé où ? J'ai boxé Kéo Ponglek. J'en ai fait juste 2-3 des combats en kickboxing.
Ouais, exactement.
T'es boxé contre Kéo Ponglek 2 et contre Samir Petit Prince 1. Donc j'ai pas fait énormément. Quoi.
Exactement. D'ailleurs, ça, bah, tu me parles de Kéo Ponglek. C'est un sujet qui est moins sympa à aborder, mais c'est quand on. On est... Toi, t'as mis beaucoup de KO.
J'adore Kéo Ponglek.
Ouais, je sais.
Là,
ouais,
moi,
je sais.
Moi, Jay, il m'a dit de faire un stage chez lui. Hein.
Ah, en Italie ?
Ouais.
Il est toujours en Italie, Kéo Ponglek.
Ouais, toujours en Italie, ouais.
Toujours. Un grand, grand champion de boxe thaï.
Bah,
ce que je voulais dire, ouais, ce que je voulais dire, c'est que là, toi, t'as mis beaucoup de KO, ouais. Mais que lui, il t'a mis un KO qui me reste gravé, moi, en tête, ouais, ce high kick-là.
Deux KO.
Ouais, mais celui-ci, ouais. Vraiment, c'est celui qui a marqué.
Ouais, là où j'ai dormi, mais là, avant ça, il m'avait pété les gencives et le palais, et dedans, avec un coup de coude. Parce qu'à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, quand on voyait Taï faire ça, ils arrivent dans le combat, ils prennent pour des gens et ils jettent comme ça des
choses. Ouais, c'est vrai.
Et je trouve que ça faisait cool.
C'est vrai, c'est
et
vrai,
à l'époque,
c'est...
je faisais ça régulièrement. En plus, tu peux mieux respirer sans protège-dents, quoi.
Ouais.
Donc j'ai jeté le protège-dents et il m'a mis un coup de coude dans le. Juste ici sous le nez, là.
Ouais.
Il m'a pété la gencive, le palais, wow. Et dedans de là, et c'est dans ma gorge au fond, toujours attaché par le milieu du palais.
Ouais. Ouais, on se rend pas compte.
Finalement, après, je mets le protège-dents.
Ouais, maintenant, tu l'as plus craché après.
Non.
Ouais, ce KO-là, moi, c'est... Comment on réagit après un KO de cette ampleur-là ? Comme t'as dit, t'as dormi.
Tu vois, oui, la deuxième fois, j'ai dormi, mais c'était vachement moins dur que le coup de coude dans la bouche.
Ouais.
Le coup de dans la c'est bouche, j'étais en Italie, à l'hôpital, ils ont réveillé un chirurgien à 2h du matin. Il a fait clac, il m'a remis d'un coup comme ça, après, il a attaché avec du fil, quoi. Et après, j'ai eu mal non-stop pendant au moins un mois, quoi. J'étais dégoûté. Quoi. J'ai même arrêté la boxe pendant 3-4 mois. Quoi. Et en disant tout le monde que j'ai arrêté définitivement. Quoi.
Oui.
Et la deuxième fois, le KO, non, ça m'a... Tu te réveilles, t'as rien, tu te demandes où est-ce que t'es. Bon, t'es un peu oublié, quoi.
Ouais. Ouais, c'est ça. Je dis toujours, c'est comme si on t'a éteint la lumière.
Oh, ouais. Et puis j'ai pas eu mal par la suite. Voici, un peu mal à la mâchoire, quoi. J'ai du mal à mâcher, quoi.
Ouais, mais c'est clair.
C'est pas la première fois, mais...
Et puis il y a une autre star internationale que tu as boxé avec une anecdote sympa, c'est Boakao, qui s'est fait connaître au K1, notamment, en le gagnant deux fois.
Il faut expliquer un peu qui est Boakao pour les petits jeunes.
J'y viens justement, donc une superstar. C'est un mec qui a dépassé un petit peu les frontières du Muay Thai, c'est devenu une légende. Il a gagné, il était au Japon, il a remporté deux fois le K1 Max, donc en 2004, deux fois en 2004, en 2006. Okay. à mon sens, il aurait dû gagner trois fois. En 2005, en finale, contre Andy Sauer. Pour moi, il avait gagné aussi. Bon, écoute, en plus, moi, j'avais 21 ans. Tu sais, à cette époque-là, j'étais impliqué. J'allais insulter des gens en anglais sur Internet pour dire Boaka, on va gagner. Ouais. Donc, j'étais un peu. Ça m'est arrivé de parler de toi aussi sur des forums. Enfin, j'étais très impliqué dedans.
Ce qui est marrant, c'est que c'est un mec il y a longtemps et je l'avais revu il n'y a pas longtemps. C'est, je le vois dans la rue, il me fait alors, comment ça, t'as boxé Boakave?
C'est marrant,
non?
Ouais, c'est marrant. On t'a demandé aussi si t'avais boxé Crocop, tu m'as dit tout à l'heure.
Ouais, bah justement, Saint-Ouen.
Crocop, c'est un champion poids lourd de MMA, bah oui, on rappelle. Jean-Charles Scarbouski, vous voyez.
Ouais, 50 kilos de différence.
C'était pas un poids lourd. Donc effectivement, il y a eu et un souvenir lointain quand on parle de toi. Mais oui, Boakave, c'est une superstar que t'es parti boxer.
Aussi, je suis désolé. Donc une fois, il y a un mec qui est venu voir Stéphane et il lui a dit Stéphane Nikema.
Oui. Qui, légende aussi, hein, du moteur
ouais,
français.
Ouais, je l'adore. Et un mec est venu voir, il a dit Stéphane, moi j'adorais ton combat contre Rokaman. Et Stéphane, il dit merci. Et après, je suis ta boxeur Rokaman. Il fait non. Mais...
dis rien. Bah, c'est poli. Ouais, ouais. C'est poli pour pas dire autre chose. Mais Boakao, c'est à Hong Kong, tu le combats.
Ouais, Hong Kong, ouais.
Et, alors j'avais lu une anecdote, je sais pas, je sais jamais si c'est vrai. Est-ce que vous avez fait le chemin en avion ensemble? C'est vrai,
ouais,
ça ou pas?
Ouais, Boakao, avant de se retrouver dans cet avion avec lui, on était assis à côté. Là, je sais pas que j'ai boxé contre lui, c'est lui qui me l'a dit.
C'est lui qui t'apprend que tu vas le boxer en fait.
Ouais.
Dans l'avion.
Et bon, de toute façon, allez, je battais tout le monde en Thaïlande et puis j'ai déjà 29 ans qu'est-ce que je voulais dire? Je l'avais vu deux fois Boakao avant de le voir dans l'avion.
Ouais.
Je sais pas qui me connaissait. Je le vois deux fois au Raja, il me voit de loin. Jean, tu vois, Jean, il m'appelle et il vient me voir, il me prend dans les bras. Deux fois. Quoi. Donc je me suis dit, mais il m'aime bien, quoi. Et dans l'avion, il me dit, ouais, on boxe ensemble. Et je fais, ok, super. Et il me dit, par contre, il y a un problème, c'est que je te kiffe trop. J'ai dit, putain, on s'est vu que deux fois, et deux minutes, quoi, je dirais. Il me kiffe trop, c'est super plaisir, quoi.
Ouais, mais t'avais une notoriété, quand même, en Thaïlande.
Il me dit, putain, je te kiffe trop. Alors que je l'ai vu deux fois, mais il m'avait pris dans les bras, quand même. Et avant le combat, tous les boxeurs vont sur le ring. Chacun d'un côté, quoi, et puis ça sert la main quand on appelle les noms, toi, bam, 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 et moi j'étais dernier, il était dans le ring, et moi j'ai venu pour te serrer la main, et tourne le dos comme ça, il était fait la gueule. Après, bon, c'est du sport, et puis il me prend dans les bras, quoi. Et après, ça m'a rappelé un petit peu, comme moi je t'ai dit, j'avais dit à Robert
exactement.
Que j'avais des posters de lui et que ça l'avait un peu perturbé, quoi.
Il était rentré dans la tête, lui aussi, alors.
Et bah ouais, parce qu'au fait, au premier round, on est là, et bah, il met un coup de pied dans la tête.
Ouais.
Tu me dis que tu m'aimes bien, on fait un combat technique, et moi j'ai pas entraîné, quoi. Donc j'ai pas vraiment de condition physique pour battre Boakao, j'aurais vraiment dû rentrer dedans, quoi. Chose que je ne pouvais pas faire, parce que j'ai eu un souci de santé, j'ai pas pu m'entraîner. Voilà. On m'avait dit que tu boxes un chinois, bon, peu importe.
Mais... Non, t'as pas dit du tout, parce que lui il savait, mais toi tu savais pas, en fin de compte.
On m'avait dit que tu boxes un chinois.
Ah ouais, bah c'est fort ça.
Le mec qui m'a dit ça, c'est Songchai Ratanasoban, c'est le promoteur
légendaire thaïlandais.
C'est vrai que pour certaines personnes, ils n'arrivent pas à voir la différence entre les Thaïs et les Chinois, enfin les Asiatiques, pour certaines personnes, ils se ressemblent. Ouais. Peut-être que Songchai avait ce problème.
Pour tout un promoteur légendaire.
Il a cru que Boakao c'était un Chinois parce qu'il a. Parce qu'il a une tête asiatique aussi, comme un Chinois. Et...
Qu'est-ce que tu penses qu'il y a derrière ça? Pourquoi il n'a pas voulu dire que tu boxais Boakao? C'est bizarre quand même.
Bah, c'est pas
qu'à l'époque, tu mettais KO tout le monde. Et la vérité, c'est que Boakao, il avait un petit défaut. C'est qu'en anglaise, il était un peu susceptible à les prendre.
Les journaux thaïs me donnaient gagnant.
Ouais.
Avant le combat. Donc, quand les journaux thaïs te donnent gagnant avant le combat, est-ce qu'il y a besoin de faire le combat? Bah non. Ouais. De toute façon, j'étais pas entraîné, mais j'en ai avoir beaucoup plus de conditions physiques. Après, c'est un honneur d'être monté sur le ring face à une star pareille, mais j'ai mis deux coups de couteau autour de la tête. Et oui. J'ai jamais mis à personne. Ça,
non, c'est un bon combat, en plus sympa, qui est toujours disponible sur YouTube, donc je vous invite à aller le regarder.
Donc, premier round, on est assez tranquille, et à la fin du premier round, il y a son chat, il vient dans le coin, il fait « si tu continues à lever le pied, je te paye pas ».
Ah oui, d'accord.
Donc, deuxième round, j'ai fait plus, quoi, mais j'ai pas la condition, donc j'ai pas la condition, faut que je fasse gaffe à pas me retrouver crevé, à faire une accélération dans le vide, quoi.
Ouais, ça fait partie de ces histoires-là. Est-ce que c'est vrai que c'est particulier de combattre pour un promoteur thaï?
La personne qui avait organisé ce gala, c'était un Allemand, je sais pas si tu connais.
Non.
Explosion, je crois.
Explosion Fight Night, ouais, ça s'appelait.
C'est un Allemand qui avait organisé ça, qui vivait à Hong Kong depuis plusieurs années, quoi. Et le mec, Je pense que c'était un mafieux, parce que déjà, il était habillé avec des costards, montres, trucs, les bagues. Après le combat, il m'a dit... je lui ai dit, tu fais quoi ce soir? On va sortir un peu quand même. Il me dit, ouais, je t'emmène en boîte, il me dit. Et donc après, je vais voir Bokeo, je lui dis, tiens, Bokeo, il nous emmène en boîte. Et Bokeo, il fait, non, moi, je suis fatigué. Il me dit, j'ai mal à la jambe. Je lui ai dit, mais à cause de quoi? C'est moi qui t'ai fait mal à la jambe, quoi. Et finalement, Bokeo est rentré se coucher. C'est pour ça que c'est la légende que c'est, parce que le mec, même après une victoire, elle est... Et alors que moi, 3-4 jours après, j'avais un combat contre le champion du Raja Mankong au Raja Damnon, que j'ai perdu aussi. Forcément, je ne pouvais pas gagner.
Ouais, si tu étais déjà pas entraîné pour Bokeo, ouais, c'est clair.
Donc je suis sorti avec lui dans le quartier chaud de Hong Kong. Et avant que je sorte avec lui, il y a 2-3 personnes qui m'ont averti. Ils m'ont dit, fais gaffe, hein. Sors avec lui, c'est chaud. Moi, je ne comprenais pas ce qu'il me disait, quoi. Et en fait, le mec, dans la soirée, il s'est mis à agresser tout le monde.
Oh.
Tout le monde. Et comme il est impressionnant, ses bagues, costard de ouf, là, les lunettes de soleil, et qu'il a vraiment l'air méchant, quoi, il racketait tout le monde dans la rue.
Ah ouais.
Il a fait, les gens, donne-moi ça. Tiens, donne-moi ça. Ouais.
Un Allemand qui peut faire ça
Ouais.
Ok.
Ouais, mais tu sais, les Asiatiques, ils sont... À mon avis, même, on va, à chaque fois qu'on sortait d'un bar, ils ne payaient pas. Et à un moment, il a pris son prix, il a jeté dans la gueule du mec, le mec est tombé, il a pété le miroir derrière dans le bar. Et moi, je dis plusieurs fois, je fais, excuse-moi, mais tu sais, cette ambiance, moi, j'aime pas trop. Hein. C'est moi, je suis bis, quoi, la sambo avec tout le monde, ça, j'aime pas ça du tout.
Ouais. Non, mais c'est incroyable.
J'aime pas, quoi.
Ouais, il y a des histoires de combat.
Et j'ai appris récemment qu'on l'a retrouvé mort dans une chambre d'hôtel.
Waouh. Ouais, en même temps, tu m'as dit si c'était un petit peu mafieux, quoi.
Il me dit qu'il a 2 enfants, il en a appelé un Tony et l'autre Montana.
Ah ouais, là, on est sur un mafieux...
Et le mec, dans son CV, il avait 465 combats, 0 défaite.
Ah bah oui, bien sûr. Forcément. Ouais, c'est... comme quoi, des fois, c'est le cinéma...
Pierre M. Ingracia.
J'allais dire, c'est le cinéma qui s'inspire de la réalité, par l'inverse.
C'est sympa, tu vois, mais...
Ouais, bon.
Ouf, le mec. Et donc, on sortait des bars, et lui, personne n'embêtait. Moi, il m'attrapait pas le bar. Je dis, non, mais c'est pas moi, c'est lui.
Ouais, non, mais c'est des histoires de fou, et j'imagine t'en avais vécu beaucoup comme ça.
Il a insulté les gens, putain.
Ouais, c'est...
C'est l'alcool méchant.
Ouais, je vois, voilà, je vois bien.
L'alcool méchant, non, mais je vois, il a bu, il est devenu méchant.
Je vois le personnage.
Agressif et...
C'est compliqué. En tout cas, tu fais ta carrière comme ça, tu continues à combattre jusqu'à un certain temps, jusqu'à 2006, ton dernier.
Qu'il faisait, il laissait sa sacoche avec de la thune, ouais, sur le bar, il allait à 50 mètres,
personne
il regardait comme ça, et dès que quelqu'un s'approchait, il embrouillait. Alors que c'est Hong Kong, il n'y a pas de voleur.
Non, laisse tomber. En tout cas, ouais, comme je te disais, ça continue ta carrière jusqu'à ce combat contre Big Ben, qui a aussi pas mal combattu en France, notamment contre Yuan Lidong.
Le meilleur de la Thaïlande à ce moment-là.
Et je me souviens...
Il n'a pas de menton, apparemment. Il a
fait
une deuxième carrière en France.
Ouais. En France, il a pris des KO, notamment contre...
Mabel et Lidong.
Contre Mabel et Lidong, exactement, les deux combattants de la Team Safran.
Avant,
bonjour à Team Nasarka.
J'avais
lu à l'époque, je crois que c'était sur Muay Thai TV...
Juste avant le combat, le moment du combat, c'était le dernier combat...
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
C'était ton dernier. J'étais malade et j'ai pas pu m'entraîner comme il me fallait, mais c'est de ma faute. le matin, il me fait, hey, tu veux, pas trop fort, s'il te plaît, il me dit. perturbé comme j'avais perturbé Robert.
Ah, ils te l'ont refait derrière. Tu l'as fait une fois, ils te l'ont fait plusieurs fois. À l'époque, sur Muay Thai TV, t'avais dit que dès les premiers instants du combat, tu sentais que c'était un peu fini, que tu voulais plus trop boxer, en fait.
Bah, en fait, J'ai toujours un peu du mal à faire le poids. Des fois, il se peut que j'avais 500 grammes de trop.
Oui.
Tu vois. Après avoir couru pendant des heures et des heures, tu vois, il y a 500 grammes. Et j'ai dit, bon, bah, ça vaut rien. Et comme j'étais un peu du succès, donc il me laissait faire quand même avec 500 grammes de plus.
Oui.
Ce jour-là, j'avais 4 kilos.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'il me fout de la gueule du monde, quoi.
Oui.
Il y a 4 kilos trop, je vais pour courir au Raja pour perdre du poids. Je cours 3 minutes, je deviens blanc. Je suis fatigué, j'étais malade.
Ouais.
Donc on laisse faire le combat avec 3-4 kilos de trop. Mais 3-4 kilos de malheur, quoi. C'était pas...
Oui, c'est pas 4 kilos de muscles, t'es bien.
C'était mal,
quoi.
Et non, je me suis... pour le combat allait bien. Et j'ai eu une certaine impression, mais après, par la suite, j'ai revu une fois ce combat en vidéo. Et j'ai vu un truc dans la vidéo que j'avais pas vu le jour du combat. Parce qu'à un moment donné, contre Big Ben, ça j'avais pas vu. Pour moi, il m'avait mis un coup de poing et je suis tombé et je suis resté assis.
Okay.
Et j'étais sonné et je me dis, je me relève, tu vois, il se passe un truc dans ma tête. Je pouvais me relever, mais je me relève, il va me défoncer encore plus, tu vois. Je fais, attends, mais non, tu penses pas comme ça. C'est quoi cette manière de penser, quoi? Je fais, après, quand je suis sorti du combat, je me dis, il faut que j'arrête la boxe parce que là, c'est pas bon, quoi. Ouais. Normalement, il n'y a pas de suite pour ce genre de questions. Tu es par terre, tu te relèves, il n'y a pas de, ah, si je m'enlève, c'est-à-dire que c'est fini.
Ouais, ouais, c'est fini, ouais. Donc, je me dis, mais c'est pas tous les boxeurs qui arrivent à faire ça, Jean-Charles. Ça fait 20 ans exactement, la plupart qui arrêtent les combattants.
Ce que j'ai vu en vidéo, ouais. Je t'ai dit, j'étais comme ça, et à un moment donné, je fais ça, je fais. Et ça, je ne l'avais pas vu dans la dans
l'ascenseur.
Je ne m'en rappelle plus. J'ai fait l'ascenseur. Okay. Donc en fait, j'étais super sonné. J'étais pas un petit peu sonné, j'étais super sonné. Du coup, j'ai l'impression d'être un peu sonné, de pouvoir essayer. Mais là, en fait, non, j'étais. Le mec, ça, en ce moment, en plus, il est très fort. En plus,
ouais, très, très fort, bien, encore une fois. Encore une fois, un combattant très fort.
Et mais du coup, tu fais pas trop mal. Hein.
Ouais, t'as rentré dans la tête. Mais t'as jamais repris. Donc t'as jamais eu l'envie de refaire des combats derrière.
Non.
Non, parce que c'est rare.
Mais tu sais, je faisais pas les combats spécialement par. Enfin, j'ai pas spécialement envie. C'était mon métier déjà. Mais ça, j'avais choisi que c'est mon métier. Je faisais par passion. Et surtout, je le faisais à la base. Quand j'ai commencé cette discipline, on m'a dit pour connaître ton niveau, il n'y a pas de question de ceinture. Comme avant, karaté, kung fu, machin, des ceintures. Pour connaître ton niveau, tu es obligé de faire un combat. C'est une discipline où il n'y a pas de ceinture. C'est ça qui est bien en plus en Bretagne, c'est un peu des outsiders.
C'est vrai.
Il n'y a pas de ceinture, mais il faut que tu montes sur le ring. Tu es pour connaître ton niveau. Donc, je monte sur le ring pour connaître mon niveau. Après, non, j'ai connu mon niveau et puis.
Ça t'a suffi.
Tu sais, il n'y avait pas de sous et. Je m'étais quand même mangé 2 KO où j'ai dormi dans ma carrière et 3-4 KO debout, tu vois. Et un truc qui m'a un petit peu choqué les derniers temps, la dernière année, c'est que tu sais, j'étais content de me voir dans les magazines comme ça, avec tous les autres boxeurs de la soirée. Quoi. Mm-hmm. Et un jour, je regarde la photo et je vois que moi, j'ai 30 ans, 31, ils ont tous 16-17 ans sur la photo.
Ouais.
Et je dis, attends, tu vois une photo que des jeunes de 16-17 ans, puis un mec de 31 ans. Et tu dis, le mec, il n'a pas de travail ou quoi?
Ouais, mais c'est pas pareil, Jean-Charles, parce qu'en Thaïlande, ils sont tous très jeunes quand ils boxent.
Ouais, ouais, mais...
C'est pas comme l'Europe, quoi.
Tu sais, un mec de 20 ans, moi, j'ai 30 ans, le mec, il a 20 ans... Si... À l'époque, je disais, ouais, c'est moi qui suis plus fort, non, c'est toi, non, c'est moi. Là, 30 ans, 20 ans, j'étais soit qui est plus fort, bah, si tu veux, pas de souci.
Ouais, t'es plus.
Je peux me prendre la tête avec un mec de 20 ans, tu vois.
Okay, ouais.
C'est comme quand t'es en CM2, tu te prends pas la tête avec un mec de CE1. Tu vois.
Non, mais je vois.
T'es que des CE1, toi, t'es en CM2, t'es là, tu veux faire le beau parmi les mecs du CE1. Tu vois.
Et du coup, ouais, ben, ouais. Ça fait de toi.
En plus,
un
j'avais
coach.
Pas d'argent, donc c'était assez facile.
Ouais. Oui. Le problème financier.
Des millions ou des 100
c'est
000,
ça.
Tu vois.
Tu laisses pas 10 000 euros par combat, 20 000 euros, je sais pas combien.
Non, j'ai, maximum, j'ai 4 000. Et sur les 4 000, je donne la moitié, quoi.
Ouais, ok. Ouais. Donc, y a pas quelque chose.
Ça, c'était en France, hein. En Thaïlande, c'est encore moins, quoi.
Ouais, du coup, tu deviens coach, tu montes la team Skarbowski,
ouvres
des salles
à Paris.
Tu commences à enseigner, ça se passe très bien, parce qu'à Paris, on le sait tout de suite.
J'ai pas commencé à enseigner tout de suite. Quand je suis arrivé, j'avais dit à ma mère, parce que j'étais revenu rejoindre ma mère, parce que.
Ouais.
Seul, je suis unique. Elle me dit, tu vas essayer de reprendre ma société. Elle avait une petite société qu'elle avait créée elle-même il y a 30 ans, tu vois, c'est donner des cours de langue aux entreprises. Donc j'ai essayé, tu vois, pour faire plaisir, quoi, pendant plusieurs mois, 7-8 mois, tu vois, 9 mois. Et j'avais arrêté 3-4 fois, tu vois, c'était le travail de bureau.
Oui.
C'est l'opposé de notre travail, de notre passion, ah, l'artiste, de
Bretagne,
c'est différent, quoi.
Ouais.
Je me rappelle les premiers jours, monsieur, parce que moi, je fais quoi, monsieur, mais pas dit bonjour.
Tu fais pas ça, oui, je sais de quoi tu parles.
Bureaux,
tu fais pas ça, ouais, c'est différent. Ouais.
Et moi, j'étais là, champion de boxe, tu me passes devant, tu me dis pas bonjour.
Ouais.
Bon, c'était pas du tout mon truc.
Ouais, c'était pas pour toi.
Ouais, vraiment, je n'appréciais pas. Et 8 mois après, je décide là, d'arrêter et d'ouvrir mon club.
D'ouvrir ton club, et puis. Là, la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, Jean-Charles, sont en train de te regarder en se disant « Mais moi, je sais qui c'est lui !»
Mais t'as même pas regardé ta fiche une seule fois.
Non, j'ai pas besoin. Déjà, je connais ta carrière par cœur. Et puis, je suis un peu hyper médic. Tout le monde regarde en se disant « Moi, je sais qui c'est lui !» C'est le gars que Georges Saint-Pierre, il a ramené aux États-Unis à Ultimate Fighter pour coacher pendant sa saison. Donc, il a coaché cette saison de télé-réalité de l'Ultimate Fighter, où il y a lui qui ramène sa team contre Josh Koscheck qui ramène sa team.
Il y a beaucoup d'Américains qui ont commencé le Muay Thai et qui ont entendu parler du Muay Thai la première fois
dans leur
vie, de par cette émission.
C'est ce que j'allais te dire.
Dans mon but, parce que moi, depuis que je suis entré Thaïlande et que j'ai appris des techniques de malade là-bas, tout mon concept avait été révolutionné. Ma mission, c'est d'être ambassadeur du Muay Thai, de promouvoir cette discipline. Et en allant faire des émissions aux États-Unis, je savais pas que ça allait avoir cette ampleur. Et je me suis rendu compte, en fait, ça complètement, ça fait partie complètement de mon truc de promouvoir le Muay Thai, parce que ça, je crois que c'est déjà l'épisode le plus regardé de tous les épisodes.
En tout cas, c'est celui dont, ouais, voilà, le plus connu, quoi.
Ouais, parce que la première fois, il y a eu 25 millions de vues en 3 jours. Ouais. Ils l'ont enlevé.
Ouais, c'est vrai.
Et ils l'ont remis 2-3 ans après, quelques millions de vues, ah, il arrête. Et 3-4 ans après, ils l'ont remis, donc il y a moins de vues, ils sont sur 5-6 millions, mais les 20 millions, parce que... Et en fait, j'ai la réponse récemment, je me suis dit, imagine, l'UFC, sa vidéo la plus regardée, elle avec un mec qui ne met pas en contrat avec eux, ouais. et qui est un électron libre, ouais. C'est quoi leur intérêt?
Ouais, c'est clair.
Leur vidéo la plus regardée, ou un mec avec qui ne travaille pas, tu vois.
Eh ben écoutez, on vous mettra le lien en commentaire si vous ne l'avez jamais. Si vous êtes parmi les quelques personnes qui ne connaissent pas cette vidéo, donc c'est Jean-Charles Skarbowski, qui est invité par Georges Saint-Pierre, légende du MMA, évidemment, ancien double champion de l'UFC, qui se retrouve à venir pour une session, donner des cours à des combattants qui cherchent, eux, à rentrer à l'UFC, à gagner le tournoi, et qui sont aspirants. Et tu sais, donc là, on parle d'Américains, on parle de mecs un peu arrogants, moi je suis fort physiquement, et puis toi t'arrives, torse nu, avec ta dégaine, avec tes chaussures
À la main. Je sais pas si t'as vu, c'est TN, mais avec la semelle, toute la semelle qui est placée.
Exactement. Et puis,
c'est spécial. Et moi, je voulais pas laisser dans le vestiaire parce que je me dis, on va me les voler.
On va te les voler.
Et quand je rentre dans le truc et je vois qu'il y a des caméras sur moi, je me dis, ça fait pas cool de rentrer avec une paire de chaussures à la main. Donc, après, je suis un peu gêné. Oh, je la pose.
Et lui, te décrit comme un mec un petit peu wild. Bon, voilà, c'est Jean-Charles, il vit à la taille et tout. Vous inquiétez pas, mais ne l'énervez pas. Ce que disent à ses élèves, ne cherchez pas à l'énerver, tournez pas dur, sinon c'est chaud pour vous.
Mais petit mot énervé, il fait don't try to go hard on him.
Exactement.
Hein, because he's gonna knock you out cold. Ouais. He's a character, you know.
Et c'est ce qui s'est passé, en fin de compte.
Je suis pas un caractère, mais effectivement, mais tu me tapes, je rends les coups, hein, forcément. Ouais.
Comment ça se passe avec eux? Comment ils t'accueillent au début, les mecs? Parce qu'on a un extrait, nous. Ouais, mais comment ça se passe en vrai?
Non, c'est
comme ça.
La première fois que je les vois, c'est à ce moment-là. Ouais. Je les ai pas vus avant. Je suis connaissant, ouais, bonjour, comment t'appelles? Bonjour, comment t'appelles?
T'as l'impression qu'ils te prennent au sérieux quand ils te voient?
Ça, je peux pas deviner, ouais.
T'as pas une image, t'as pas une impression que bon, c'est celui-là.
Bah, tu sais, c'est une émission de télé-réalité, des trucs partout sur nous, je suis invité, et on passe de ma gueule, quoi.
Bah, j'espère bien. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, quand la vidéo sort, Jean-Charles, moi, je sais pas que tu fais tout ça, que t'es au stage.
Après, j'ai interrogé, il y en avait aucun qui avait fait de la boxe thaï.
Non, ils connaissaient pas spécialement ce sport. Moi, je te parle de ça parce qu'à l'époque, l'extrait sort, et la caption, la description de la vidéo, elle m'énerve au plus haut point.
Dis pas mon nom.
Je vois juste écrit
Drunken Master.
A Drunk Coach.
Ouais, ça se fait pas.
Et bah, tu sais quoi, Jean-Charles, c'est un de mes tweets les plus qui a fait le plus d'impression, parce que j'ai dit ce drunk coach c'est Jean-Charles Skarbowski et je déroule ton palmarès.
C'est cool, c'est gentil.
Je dis voilà ce qui se... arrêtez de l'appeler drunk coach en fait.
Déjà avant que l'émission sorte, une semaine avant, il y a eu un teaser. Ouais, donc la prochaine, l'émission numéro 12, vous allez voir, et ils mettent 5-6 secondes de l'émission d'après.
Ouais.
Il dit ouais, Jean-Charles, il a ravagé tout le monde, en plus il a teasé. J'ai dit, putain, pourquoi il dit ça? C'est pas ça, quoi.
Ouais.
Tu vois. Ouais, parce que tu vas en boîte avec un mec. C'est pas le lendemain, tu vas à l'émission de télé avec lui. Je fais, ouais, juste précise qu'il a teasé. Alors que toi aussi, t'as teasé. Je veux dire,
tout le monde a teasé.
On dit pas ça.
Ouais, mais ça fait partie de l'image, Jean-Charles. On voulait donner cette image-là, en fait.
Et le tout, comme ça réuni, bah, ça m'a fait rire. Et comme ça m'a fait rire, bah, je peux rien dire, quoi.
Ouais.
ça m'a fait rire.
Ouais, puis ça t'a donné une autorité mondiale.
Mais en plus, je suis tombé amoureux du personnage qu'ils ont décrit, quoi. Je veux être comme ce mec, là.
Mais c'est un film.
Il défonce tout, putain, je veux être comme lui, tu vois.
En fait, dans un film, on le fait, ça.
J'aimerais bien être comme lui, quoi, tu vois.
Et en fait, nous aussi, ça finit par nous faire kiffer. Les anciens, ceux qui t'ont vu, on a grandi avec, on se dit, en fait, tant mieux. En fin de compte, vous avez vu, ça monte le niveau français.
Ouais, il n'y aura pas eu ça, il n'y aura pas eu de buzz,
et derrière, voilà, ça donne une buzz, une autorité.
Juste cette petite phrase, ouais, il drink, tu vois. Oh, il n'y aura pas eu ça.
Et derrière, donc, ça te permet, ça t'ouvre des portes, j'imagine. T'as eu pas mal de retours, surtout côté américain.
J'ai eu zéro retour.
Ah non, rien. T'as pas pu du tout capitaliser dessus, en fin de compte.
Non,
si
non, rien.
Ah, c'est un peu dommage, ça. C'est un peu dommage. Mais derrière, en tout cas, en France, toi, ça te permet de continuer de
mais surtout, pour la boxe thaï, aux États-Unis, ça a envoyé les gens faire de la boxe thaï. Ils ont dit, ouais, c'est une carrière, un truc de ouf, parce que le mec, il a battu tout le monde.
T'en as mis KO pas mal, ce jour-là, quand même. Au foin, enfin, KO. On est gentil, mais bon.
J'ai poussé sans tomber.
Tu utilises le PAM, enfin, le corps à corps, pour leur montrer aussi que même si c'est des lutteurs, de base, c'est des lutteurs, mais avec tes techniques de corps à corps.
La première fois que j'ai fait l'entraînement avec Georges Saint-Pierre, il y a un ami de Georges Saint-Pierre qui lui a fait une tige. Je t'ai jamais vu autant sur tes fesses dans ta vie qu'avec ce mec.
Enfin, ouais. Moi, quoi. Ok, ouais, donc beaucoup de projections, t'es arrivé quand même.
Corps à corps, ils ont jamais fait de corps à corps. Enfin, ils sont comme ça pour beaucoup de lutteurs. Mais effectivement, c'est pas la même discipline. Il m'a attrapé les jambes, j'étais mort. Mais d'ailleurs, j'ai fait un peu de lutte avec lui, vite fait.
Ouais.
Et je disais ça pour rigoler, mais tu sais, je m'étais râpé les deux genoux, quoi.
Ouais.
Et le problème, c'est que j'étais avec lui, en plus, c'est en été, j'étais en short, j'étais aux toilettes avec lui, on sort les toilettes à un moment donné, tous les deux.
Ouais.
Et je me dis, les gens, ils vont voir que mes genoux, ils vont penser quoi.
Je vois.
Je me dis, c'est pas une discipline pour moi.
Non, t'as genre...
Je sais pas qui ouais, ça m'a...
Peu... Aujourd'hui, ouais, avec le recul, tu t'es dit que si le MMA, ça avait été aussi gros qu'aujourd'hui, à l'époque, t'aurais essayé, t'en aurais fait?
On peut dire n'importe quoi, parce que c'est dans l'abstrait. Et ça
ouais, c'est vrai.
On peut dire ce qu'on veut. Alors, quitte à dire ce que je veux, et que ça n'a aucune incidence, j'aurais pu faire des championnats du monde d'anglaise poids lourd.
Ouais.
C'est gratuit de le dire.
C'est gratuit.
Comme c'est gratuit de dire que j'aurais pu faire du MMA.
Oui, mais ça aurait peut-être pu te plaire, tu vois ce que je veux dire?
Bah, tu sais, t'avais du judo à l'époque, moi j'étais plus au karaté, quoi.
Ouais, ok.
Karaté ou judo?
Pas du tout, même si t'avais voilà, une opportunité. Parce que t'as combattu par exemple au K1, ils avaient une branche MMA aussi.
Quand j'ai commencé la boxe, il n'y avait que ça qui comptait.
C'est vrai.
Et rien d'autre. Donc, ouais. Et c'est quand même encore, c'est encore aujourd'hui, tu vois.
Ouais.
Et souvent, je donne ça comme exemple, quand les gens ils me demandent pourquoi t'as pas fait ça, je fais, imagine un mec. Au ping-pong, tu n'es pas beaucoup de thunes au ping-pong. Tu dis, ouais, bah, attends, fais du tennis, putain. Tu gagnes beaucoup plus de thunes au tennis. Moi, j'aime bien le ping-pong.
Ouais.
J'aime pas le tennis, tiens.
Ouais, toi, c'est beaucoup une histoire,
j'aime
mais non.
J'aime bien le combat debout. Voilà.
Tu préférais que le combat debout.
Ouais, puis après, j'ai été champion d'Europe à 20 ans. Et donc, j'ai continué dans cette voie. Je suis pas trop sorti de ma zone de confort.
Ouais. Comment ça se passe, la rencontre avec John Jones? Ce truc que nous, John on découvre Jones, sur Internet, on se dit, waouh. Ouais.
Les gens ont halluciné, hein.
Qu'est-ce qui se passe?
Les gens ont halluciné, là.
Ouais.
Bah figure-toi, tu vois la rue Soubise à Saint-Ouen.
Bien sûr.
Bah, il était parmi les... Il était dans la cage d'escalier.
T'es en train de dire que John Jones, il était dans la ville dans laquelle j'ai grandi, ouais. Dans un des quartiers.
Bien sûr. Cagoulé, mais je l'ai reconnu. Non, je plaisante. J'ai vu John Jones. Et en fait, je suis pas le MMA. Et je n'avais pas regardé combat John Jones, mais je sais que c'est le meilleur, parce que tout le monde dit que c'est le meilleur. Parce que forcément... Quand t'es dans ce sport de combat, t'entends parler du MMA, et même si je vais pas moi-même chercher ces infos, elles me parviennent sur Insta ou sur, ouais, Facebook, tout le monde dit c'est le numéro 1. Donc moi, ça fait plaisir. Et je le vois avec son entraîneur, c'est un pote à moi. Je dis, putain, j'ai mon pote, il connaît John Jones, un Américain, quoi. Et je l'appelle, je fais, ouais, tu peux lui dire si ça l'intéresse à moi, je vais lui montrer quelques techniques, tu vois. Et après, il me rappelle le lendemain, il me dit, ouais, tu sais quoi, ça lui ferait super plaisir parce qu'il a entendu parler de toi en plus. Et le lendemain, il se luxe l'épaule ou je sais pas quoi, c'était il y a 2 ans.
Ouais. Avant de faire le. Ben, c'est ce qui a reporté le combat contre Blachich, ouais.
Et donc j'attends qu'il aille mieux, au bout d'un an, je renvoie un message, j'ai fait, ouais, s'il va mieux, je peux venir, quoi. Et le lendemain, il se reblesse. Je fais, putain, il va penser que c'est moi, quoi. mais bon, c'est une petite blessure, c'est pas un gros truc. C'est son doigt ou je sais pas quoi. Là.
Ok.
J'ai oublié, bon, bref. Et donc, mon pote, il me dit, avec plaisir. Donc moi, je paye mon billet, tu vois, avec ma compagne et mon fils. Et l'hôtel, ça, moi, j'ai... Et donc, j'arrive dans la salle, et je le vois, quoi, et il me prend dans les bras, quoi.
Ah bah ouais.
Tu vois,
normal.
Donc on se kiffe, quoi. Et après, je me dis, bon, faut que je marque le coup, tu vois. Bon, c'est 8 ans après Las Vegas, l'Ultimate Fighter.
Oui.
Donc, j'ai encore des beaux restes. Et moi, je veux le prendre au piège. Je lui dis, je fais, viens, on commence tout de suite. C'est-à-dire qu'il est encore avec son sac. Je fais, viens, on va faire les jambes, juste les jambes. C'est-à-dire pas d'échauffement.
Ouais, tout de suite.
Ouais. C'est pour le prendre au piège, pour avoir un peu le dessus. Et je fais, on va faire que les jambes. Pas les poings, j'ai pas de gants, quoi. Avec les jambes, il y a les blocages.
Ouais.
Si c'est pas bloqué, il est mort.
Ouais. Et donc, comment ça se passe?
Bah, je te dis, au bout de 5-10 minutes, les gens ils se moquent à chaque fois que je dis ça, il était en sueur. Et il était pas à bout de souffle non plus, mais il était en sueur, quoi.
Ouais.
Moi je suis pas en sueur, peut-être il transpire vite, moi je transpire pas vite. Et je faisais le minimum d'efforts. Et j'en profite pour le sortir. Là, ça fait 10 minutes qu'on tournait là, une minute, un quart d'heure, tu vois. Et je lui dis calmement, je fais, est-ce que tu veux qu'on rajoute les gants? Ça, c'est du bluff. Si on rajoute les grands, je suis cuit. Ouais. Parce qu'il est bon quand même, il est fait 1m92 pour 110 kilos. Et tellement j'avais l'air sûr de moi quand je lui rajoute les grands, il me fait non, non, c'est bon. Et je me dis, putain, il a marché dans mon bluff. Et le lendemain, on retourne ensemble, là, cette fois-ci, avec les pieds points, avec les grands aussi. Ouais. Et là, forcément, il avait le dessus au bout d'un moment parce que il fait quand même 110 kilos pour 1m92. Et voilà, je ne peux pas rivaliser en anglais avec lui.
Oui, oh bah, de toute façon, on connaît ses qualités.
Il y a Joe Parker qui est venu faire un petit entraînement d'anglais avec lui.
Joseph Parker, ouais, champion du monde de boxe anglaise.
Il a battu Zhang, il a battu
exactement,
il a tout le monde. Champion. Et Bacolé. Donc, je tourne avec lui le premier jour, le deuxième jour, et après, il veut plus tourner avec moi. Il me dit, j'ai pas dormi là, tu m'as mis le type là, avec le gros orteil là dans la vessie là. C'est un truc qu'il connaissait pas, quoi. Et il m'a dit, j'ai pas dormi, putain, j'ai trop mal au ventre. Il me fait, j'ai l'impression que t'es avec ton gros orteil. En boxe, moi je tapais toujours là au-dessus du genou, et puis dans la vessie, je visais juste deux parties, tu vois. Je lui tapais un peu de manière uniforme un peu partout, sans savoir vraiment taper ni viser, tu vois. Ouais. En anglais, effectivement, il n'y a pas besoin de moi, mais pour les jambes, c'est quand même du travail. Parce que regarde, par exemple, nous, en Muay Thai, on met 1000, enfin au moins 700 coups de pied par jour dans le sac. Eux, ils ne tapent pas au sac.
Très rarement.
Donc c'est mort.
C'est pas beaucoup de...
Mais c'est ça, ils sont neufs. Tu sais, il y a encore le reste dessus, tu vois. Ouais. Ils sont encore huilés, quoi. Ouais. Ils ne tapent pas au sac. Ouais. Et s'ils tapent au sac, c'est juste pour faire des mouvements, c'est pas pour taper toute leur force.
Ils aiment pas répéter des mouvements, tu vois. Alors quand le Muay Thai, c'est que
ouais,
ça.
Oui, mais ils ne tapent pas au sac, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Ils font un peu de paro, mais encore en paro, ils vont pas essayer de taper fort, ils vont juste faire de la vitesse, des petits drills, comme ils appellent, tu vois.
Exactement.
Alors que nous, on est là, bam, bam. Le matin, 300 coups de pied, l'après-midi, 400 coups de pied, c'est 700 par jour. En criant, t'as comme des malades, et ça, ils n'ont pas ça. Leur sac, il est comme ça, c'est leur sac, tout neuf. Hein.
Comme mon sac.
forcément, avec les jambes, j'ai un peu l'avantage. Et après, donc, je parlais avec Joe Parker, parce qu'ils ont tourné en anglaise avec.
Ouais.
Tourné en anglaise. Et après, je lui dis, ouais, moi, je tourne deux jours avec lui, mais il ne veut plus tourner avec moi. Il me dit, pourquoi? Je dis, je tape toujours au même endroit, quoi. Il fait, ah bon, fais-moi trop m'en voir. Je t'en bouge pas. Ah, je lui mets un coup de pied. Oh putain. Les mecs de l'anglaise.
Ah, bah ouais, là, ils connaissent pas le look.
En plus, comme ils sont poids lourds, ils sont durs et ils sont durs. Ce qui fait qu'ils ont encore plus mal. Ouais, alors que s'ils sont mous, ça ferait moins.
Les appuis,
Et il a halluciné, Joe Parker.
Mais c'est bien parce que ça t'ouvre d'autres, j'imagine, d'autres horizons.
Bah, pas spécialement non plus parce que là, regarde, j'ai voulu retourner aux États-Unis. Ils m'ont refusé les stats là, sur Internet.
Ah bon?
C'est le permis pour aller aux États-Unis. Ils m'ont dit qu'il faut que j'aille à l'ambassade pour demander un visa.
D'accord. Ah ouais. Bon, bah, écoute, peut-être que t'es trop connu pour pouvoir demander juste les stats et qu'il faut.
Je comprends pas, non, mais peut-être il y a eu un souci, quoi.
Ouais, c'est bizarre, c'est particulier. Bah, écoute, j'espère que
voilà,
ça...
Donc,
ça va se résoudre tout ça.
Non, non, tu sais que moi, sans Georges Saint-Pierre et sans John Jones, ça marchait déjà très bien.
Ça marche déjà très
dans
bien.
Dans mon milieu, la salle, ça marchait bien, il y avait du monde.
Et tu fais aussi maintenant.
Et je viens de te dire que. Là, ces temps-ci, je fais plus de podcasts et de vidéos que de la présence à la salle. Donc,
exactement.
Ça marchait mieux quand j'étais que la salle tout le temps.
Ça fait pas mal de temps que je vais t'interviewer, mais je vois beaucoup d'interviews, donc je me dis, je vais attendre un peu. Il vient d'en sortir une, et puis à chaque fois, il y en a une autre qui sort. Je me dis, bon, je vais attendre. Là, j'ai réussi à trouver ma fenêtre. On va finir là-dessus. En fait, tu fais beaucoup de choses avec Karaté Bushido, donc ça, c'est super cool aussi.
Ils m'ont donné la chance de présenter avec eux, là.
Ouais.
Et pas mal de succès, quoi. Et là, le 6 juin, Festival des Arts Martiaux.
Exact.
Des congrès.
Avec beaucoup de.
Le festival d'arts martiaux le plus grand en France, qui est organisé tous les ans par Karaté Bushido. Karaté Bushido qui était fondé en quelle année?
Ouais, ça je sais pas.
1974.
1974
C'est après la mort de Bruce Lee, quoi.
Juste après, ouais.
Bruce Lee est marquant. 73, quoi.
73.
Donc,
il est en prison, Bushido. Ouais. Et ben, en tout cas, ouais, donc on voit ça, on découvre.
Bruce Lee, c'est son nom de scène, mais c'est quoi son vrai nom?
Lee Jung Fan. C'est ça, hein?
Voilà, et Jackie Chan, comment il l'appelle là-bas?
Ah, ça, je ne l'ai plus.
C'est Chen Long.
Ok. Je ne peux pas tous les avoir.
Et Stephen Chow, tu as vu Stephen Chow?
Je vois très bien, c'est Crazy Kung Fu.
Ouais, Crazy Kung Fu. Et ouais.
J'allais te demander, c'est quoi ton meilleur combat de film d'arts martiaux?
C'est Stephen Chow?
Non.
Jo Ching Chu. Tu vois, moi, ça marcherait pas avec ce nom-là.
Non. Est-ce que c'est ça, ton combat? C'est quoi ton film d'arts martiaux préféré?
Tu sais que moi, j'ai kiffé les deux films de Stephen Chow, là. C'est le Soccer, Shaolin Soccer.
Shaolin Soccer et Crazy Kung Fu.
Ouais,
ils sont trop bien.
Parce qu'en plus, c'est une histoire d'amour là-dedans.
Ouais, et puis c'est un peu...
C'est vachement bien fait, quoi.
C'est celui-là? C'est ça, ton film préféré?
Bah, des préférés,
même. Tu as les Blue Sports, tout ça.
Oui, bien sûr, grand fan de Van Damme. Et puis, tu as aussi les Bud Spencer.
Moi, c'est ultra fan. Ouais.
Ultra fan. Je veux dire, on fait plus ça.
Les baffes. Ça
marche. Il n'y a plus de films comme ça.
Non, c'est vrai. Mais ils trouveraient ça ridicule, les jeunes, non?
Écoute, ils sont cons.
Parce que c'était sympa.
Tu as dit toi que c'était con, jeune.
Non, j'ai pas dit ça, moi.
Non, tu viens dans ta tête.
Bah écoute, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Merci beaucoup d'être venu.
Merci beaucoup. Merci
à toi. Suivi, vraiment, ça me fait plaisir. C'est mon sport, encore une fois, de prédilection. Tout le monde, ceux qui suivent.
Plus de 50 combats.
Ouais, mais moi, c'est pas comme toi. Écoute, on a fait ce qu'on a pu. En tout cas, merci d'être venu. Suivez Jean-Charles sur ses réseaux, suivez ses vidéos sur Karaté Bushido, bien sûr.
Merci beaucoup, très bien.
Et puis, continuez à suivre dans l'émission Baba Versus, tout ce qu'on fait sur RMC Sport. Merci de liker, partager, abonnez-vous, boostez la vidéo. Et à très vite pour un prochain épisode de Baba Versus. Ciao.
Merci.